France 2 1.
»16h21, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Bon lundi, bon début de semaine, bon lendemain de veille. Pour plusieurs, je présume que c'est un dimanche qui s'est peut-être étiré ou un dimanche qui a été coupé court après les premières bières du dimanche matin. Pour plusieurs, en tout cas, c'était le fun de voir vos photos de breuvage et de setup alors qu'on était prêt pour encourager Team Canada d'un océan à l'autre. Ça n'a pas fini comme on voulait, mais ça a été une game quand même mémorable. On va s'en souvenir longtemps et ça risque de faire jaser encore longtemps. Aujourd'hui, ben, le mercure a commencé sa chute. On a moins 5 degrés à Québec, minimum de moins 12 pour ce soir et cette nuit. Demain, la journée est un copier-coller d'aujourd'hui, le maximum de moins 6, refroidissement éolien à moins 13 en après-midi, moins 18 en matinée. On prévoit de la neige intermittente mercredi avec un maximum de moins 7 et des températures agréables aussi en vue pour terminer le mois de février. Maximum de 0 prévu pour vendredi et même plus 2 degrés samedi le 28. Mon nom est Denis Gravel, Gab Marino est avec nous autres en remplacement de Véro. Audrey est là aussi. Comment ça se passe sur la route?
Ça commence à être un peu plus complexe, mais encore là, c'est léger pour un lundi. Il y a des problèmes sur la capitale direction est entre, je vous dirais, Robert Bourassa et Laurentienne, ouest, hauteur Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, ça se passe surtout entre Charest et la capitale. L'entrée des ponts, un peu difficile. Je vous dirais qu'à partir de... sur Henri IV, en fait, à partir de chemin Sainte-Foy, la direction sud, jusqu'à l'entrée du pont La Porte, c'est toujours présent. C'est lourd aussi dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle si vous êtes sur Henri IV Nord. Et route de Fossambeau entre Désérable et de la Jacques-Cartier, ça s'est installé dans les dernières minutes. Pour ce qui est de la Rive-Sud, par exemple, ça va super bien. Évidemment, vous voyez autre chose, 88-971-102 texto.
Évidemment, tout ce qui se passe du côté du Mexique retient énormément l'attention. Gab, tu nous disais dans les nouvelles tantôt que des vols allaient reprendre dès demain.
Air Transat qui veut reprendre ses opérations à l'aéroport de Puerto Vallarta parce qu'il n'y a eu aucun incident lié à des blocages routiers dans les dernières 24 heures donc à cet endroit-là. Évidemment, c'était le point chaud, là, Puerto Vallarta, donc ça commence tranquillement. On sent que la situation se calme de plus en plus, mais...
Ça a brassé pas mal, puis on le voit, tout ça part évidemment de l'arrestation et finalement de la mort de El Mancho, qui était un des grands patrons et des grands dirigeants des cartels de drogue mexicains. Puis je m'avancerai pas plus loin pour essayer de résumer tout ce qui se passe, parce qu'on va aller rejoindre un ancien vétéran des Forces armées canadiennes, consultant en sécurité et défense. On a commencé à jaser avec lui la semaine dernière, concernant la situation à Cuba. Mais là, on va regarder ce qui se passe au Mexique aujourd'hui avec Éric Sauvé. Salut Éric, comment ça va?
Oui, bonjour Denis, ça va bien?
Oui, ça va. Mon Dieu Seigneur, pour les 2-3 destinations vacances soleil qui restent dans le monde, les prix vont monter pas pire dans les prochains jours.
Hein? Oui, bien c'est ça. Il y a des gens qui se sont rabattus sur le Mexique parce que Cuba, ça ne fonctionne plus. Le Venezuela, ça n'a jamais été une option, mais je veux dire, ça brasse beaucoup dans le secteur, effectivement.
C'était qui ça, El Mancho?
Mais El Mancho, dans le fond, c'était un des plus gros kingpin de la drogue au Mexique. Fait que tout le monde connaît le nom de Pablo Escobar, je crois qu'il était le dirigeant du cartel de la Colombie dans les années 90. On a eu El Chapo qui a été arrêté, qui est passé en procès à New York. Il y a eu El Mayo, fait qu'ils ont tous des surnoms. Puis El Mancho, c'était le dernier en lice. Puis c'est vraiment une grosse prise parce que c'était le boss du cartel de Jalisco, nouvelle génération. Un cartel qui n'est pas nécessairement très, très vieux, mais reconnu pour sa violence extrême. C'était un des rivaux du cartel de Sinaloa, qui était très connu. Et puis là, El Mancho, c'était vraiment le dirigeant de la drogue, fentanyl, méthamphétamine, etc. En fait, il se spécialisait dans beaucoup de domaines, effectivement.
Puis c'est un cartel, si j'ai bien compris, qui avait une réelle puissance militaire. Ils ont beaucoup d'armes.
Ils ont énormément d'armes. Premièrement, ils ont 15 000 à 20 000 personnes. Ils ont regroupé, dans le fond, 92 petits groupes. Mais il y avait des véhicules blindés artisanaux, des drones, des mines. Il y avait même leur propre fabrique d'armement. Il y avait des lance-roquettes. Ils ont déjà abattu un hélicoptère de la police.
Tabarnouche.
Puis, quand je dis qu'il était violent, il avait même fait une attaque à Mexico City en 2020 pour tuer le ministre de la Sécurité publique. Ça s'est pas passé comme il voulait, mais il était quand même très, très audacieux comme groupe, reconnu pour leur violence. Puis, ce qui est particulier dans le domaine des cartels, c'est que les cartels n'ont pas été toujours dans l'ultra-violence comme ça. Il y avait les cartels des Zetas qu'on a connus dans les années 90. Puis, quand le cartel de Jalisco a été créé, il s'appelait Mata Cetas, en espagnol, qui veut dire on tue les cetas. Fait que, dans le fond, ils étaient en compétition contre les plus violents, puis ils ont adopté leur même tactique par la suite.
Là, pourquoi la mort de El Mancho amène autant de violence? C'est-tu sa gang qui fait un statement pour faire peur aux autorités? Ah, ben, c'est les autres cartels qui brassent autour puis qui essayent de prendre du terrain. Qu'est-ce qui se passe présentement?
Bien, il y a certainement un peu de tout ça. Il faut comprendre que les cartels, c'est le crime organisé. Puis le crime organisé essaye d'opérer sous le radar tout le temps. Donc, de ne pas faire de violence énorme comme ils font là. Mais là, le message, c'est vous avez pris notre chef, on est extrêmement fort, on est très bien armé, on fait du grabuge. Fait qu'ils l'ont fait dans plusieurs États. Ça a été vraiment à très grande échelle. Maintenant, on comprend que ça s'est calmé, peut-être parce que le groupe a fait son statement, justement, mais il va sûrement y avoir des luttes intestines, à savoir, parce qu'il n'y a pas des plans de succession dans ces cartels-là. Hein. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards. Puis là, c'est qui va être le plus violent pour pouvoir prendre le contrôle du gros cartel. C'est ça qui se passe en ce moment.
OK, c'est ça la game. C'est qui est le plus violent, puis c'est lui le chef.
Mais en ce moment, tu sais, un peu comme moi, je me suis déployé en Afghanistan, OK? Puis quand tu as des grosses armes en Afghanistan, quand tu as des Stingers pour abattre des avions, tu deviens comme un chef plus avec plus de prestige. Fait qu'en ce moment, là, tu sais, ces gens-là ont beaucoup d'armement, ils ont fait de la démonstration. Puis celui qui est peut-être le plus violent va probablement être celui qui va prendre la tête. Puis quand je parle le plus violent, ben, un peu comme la mafia italienne, ben, on élimine nos opposants, tu sais. Il va y avoir sûrement quelques narcotrafiquants qui vont passer par l'Église pendant les prochains jours.
Oui. Éric, le gouvernement, ça les place dans une drôle de position. Puis pour faire un grand coup comme celui-là, est-ce qu'ils ont agi de leur propre initiative ou c'est vraiment des pressions étrangères, entre autres, évidemment, Donald Trump, qui ont fait en sorte qu'ils se sont sentis forcés de brasser la marmite comme ça?
Mais c'est certain que la pression de Trump, elle est derrière ça. Puis aussi, la stratégie américaine, c'est toujours d'aller chercher un trophée, c'est-à-dire d'aller frapper la tête. Puis ça, c'est pas la stratégie mexicaine, parce que les Mexicains comprennent bien que les cartels, c'est comme des hydres à plusieurs têtes, puis que quand t'en coupes une, il y en a une qui repousse. Mais les Américains demandent des noms comme El Chapo, El Mayo, El Mancho. Ça fait des beaux trophées politiquement. Ça veut pas dire que le problème est réglé. Puis la flambée de violence, on l'a vu après la mort, après que El Chapo est arrêté, il y a eu beaucoup plus de meurtres dans ces régions-là. Parce que justement, il y a un power vacuum qui se crée, puis il y a des gens qui veulent prendre la tête, puis en se faisant, ben, c'est comme un peu les guerres. C'est un peu comme les Hells Angels puis les Rock Machines il
Ben
y a
oui,
quelques années.
ben oui.
C'est exactement la même chose.
On l'a nommé un peu d'entrée de jeu, Éric, mais les impacts pour les Canadiens qui voyagent au Mexique en ce moment, là, faut-tu paniquer, faut-tu tout annuler? C'est quoi, comment on fait ça? Là, parce qu'on a plusieurs des éditeurs puis des gens autour de nous qui s'étaient justement
Je pars dans
2 semaines,
ouais. Puis ouais,
Et
c'est ça.
on a accumulé ça depuis 2 ans, les temps sont durs, on s'en allait. Là, qu'est-ce qu'on fait?
Mais en ce moment, il faut vraiment écouter Affaires mondiales Canada. C'est eux qui décident vraiment, en fait, qui donnent les directions. Mais il y a des vols qui ont été annulés. J'entends qu'il y a des vols qui reprennent. C'est certain que si vous avez le choix, évitez la côte ouest du Mexique. Par contre, la côte est, je suis allé régulièrement dans le Yucatan. Il y en a sûrement qui connaissent beaucoup Cancun et tout, Riviera Maya. C'est pas étendu à ce point-là non plus. Cependant, si vous allez sur la côte ouest, si vous devez y aller, puis votre vol est encore bon. Évidemment, les recommandations, c'est de ne pas sortir de la zone hôtelière de Puerto Vallarta. Parce que les cartels ont infiltré les hôtels aussi, puis ils ne veulent pas non plus faire tomber le tourisme. Fait que s'il y a des touristes qui sont frappés, c'est souvent des dommages collatéraux. Parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à la zone hôtelière, ils ne veulent pas non plus se mettre toute la population à dos non plus.
Puis là, on voit que, justement, il y a des vols qui reprennent et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut s'attendre à une accalmie, puis le message est passé, ou la violence mexicaine et les montées de violence suite à des gestes comme ceux-là, ça demeure imprévisible?
Bien, il y a déjà eu des montées de violence par le passé quand des chefs ont été justement kidnappés, enlevés, tués. Mais en général, ça ne dure pas longtemps. Puis le message hier était très clair. Je veux dire, ça a fait le tour du monde complètement. On aurait dit que le Mexique était à feu et à sang quand on sait très bien que c'était très localisé. Je pense que le message est clair. Puis je pense que ces groupes-là ont tout avantage de redescendre sous le radar. En ce moment-ci, ceux qui sont le plus en danger, c'est toujours les juges, les politiciens, les maires, les forces de l'ordre. Parce que eux, s'ils ne mangent pas dans la main des cartels, ben, ils sont ciblés par les cartels régulièrement.
Eric, je veux reprendre ton parallèle avec les Rock Machine et les Hells Angels. Là, c'est comme si le président des Rock Machine avait été exécuté. À partir de ce moment-là, ça veut-tu dire que les Hells Angels du Mexique vont faire table rase sur le reste de la distribution de la drogue et ainsi de suite? C'est-tu ça qui va arriver dans les prochains mois?
Bien, comme j'ai mentionné, c'était un ennemi du cartel de Sinaloa, qui est un très gros cartel, qui est dans la même région, parce qu'il y a comme quatre États, dans le fond, qui sont les points névralgiques. C'est certain que le cartel de Sinaloa, en ce moment, est en train d'étendre ses tentacules pour reprendre le contrôle. Parce que ces gens-là, ils sont, oui, dans la drogue, comme la cocaïne, l'héroïne, mais sont aussi dans les laboratoires, ils sont aussi dans les mines, ils sont dans les hôtels. Ils sont dans l'extorsion des gens. Je veux dire, ils ont comme une diversification économique incroyable. Puis à partir du moment que le leadership est tombé, bien, tout ça devient un peu fair game pour les autres cartels qui voudraient peut-être s'enrichir à leur dépens, dans le fond.
Éric Sauvé, merci beaucoup. Super intéressant encore une fois.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine. Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et consultant en sécurité défense. Il y a des témoignages qui commencent à se promener, entre autres un Québécois qui a été agressé par les gens des cartels qui ont volé sa moto puis qui ont mis le feu dedans.
Ben oui, hein.
C'est un gars qui en a vu d'autres, là, de ce que je comprends, là, un Québécois en vacances à Puerto Vallarta. Yves Blouin, un ancien réalisateur de Radio-Canada.
Yves Boutin.
C'est quoi?
Boutin.
Boutin?
Oui, ouais,
j'ai dit Blouin. Hein?
Ouais.
Ouais, c'est pas ça. Yves Boutin. Oui, c'est désolé. Ex-réalisateur chez Radio-Canada qui a suivi son instinct de documenter les événements. Puis il dit, ils m'ont pourchassé. Ils ont réussi à m'arrêter. L'homme de 69 ans qui s'est retrouvé entouré de plusieurs hommes masqués. Il dit, ils m'ont frappé partout sur la tête. Ils m'ont jeté par terre. Ils criaient « Gasoline! » Et... ouais, mon accent est italien, ça marche pas.
Avec on n'est pas tout à fait là.
Ouais, ma reconstitution est impayable. Il criait essence et je ne comprenais pas ce qu'il voulait. J'ai fini par leur montrer l'endroit où mettre de l'essence sur la moto. Ils l'ont couché par terre, ils l'ont brûlé. Il a poursu de blessures sérieuses, mais ça peut traumatiser. Là. Il y a une famille mexicaine qui a vu la scène et qui ont crié à Yves Boutin de venir se mettre à l'abri. Des histoires comme ça, ça commence à sortir. Je comprends les gens d'être nerveux. Là, je voyais tantôt tabarnouche. Nous autres, on était supposés de partir en famille à Puerto Vallarta pour la relâche.
Hein?
Là, on est en train de repousser ça. C'est sûr que même si les vols se résument... Puis tu sais, on a tout un niveau où on est capable de tolérer le risque. Là. Moi, j'ai aucune tolérance. Là. Des vacances, c'est des vacances. Il faut que j'aille me stresser puis regarder les nouvelles à tous les jours pour savoir si je suis en sécurité.
Ouais.
Moi, c'est pas mon genre de vacances. J'aime mieux annuler puis perdre de l'argent.
Surtout si t'as des enfants.
Hey, mon Dieu, tu dis, toi.
Mais c'est comme ma limite, elle serait surtout là. Si toi, tu veux te mettre en danger comme individu, c'est une affaire, mais en famille, j'ai pas.
Ben, les compagnies aériennes, ils font quoi dans ce... Parce que je pense qu'ils sont ouverts d'esprit, là, si tu veux. Ils t'offrent un...
Ils rapatrient.
Non, tu ne veux pas y aller, mettons. Là.
Ah, OK, OK.
T'es dans une semaine, là, ouais, là, tu ne veux pas y aller. J'imagine, ils font OK, on va le repousser, c'est correct.
Je vais te dire, le problème qu'on a présentement, c'est que là, tu as Cuba qui n'offre plus de destination vacances, ce qui fait en sorte que tu as déjà un paquet de monde qui se sont relocalisés au Mexique,
ben
entre
autres,
et en République dominicaine.
À des prix fous.
Là, on ne sait pas combien de temps la situation va perdurer. Mettons que c'est réglé, là, les vols reprennent, puis il n'y a plus de violence.
Exact.
Ils vont réussir à accommoder du monde. Mais là, présentement, le marché des vacances tout inclus, il est ultra saturé. Ce qui fait en sorte qu'avant même ce qui se passe au Mexique présentement, les prix ont monté en flèche en l'espace de quelques jours. Puis on manque justement de plages horaires puis de dates.
C'est
là.
Sûr.
Même, tu sais...
Fait que la compagnie, elle risque d'être moins smart avec toi en voulant dire
absolument.
J'aimerais ça changer d'idée ou avoir une autre opportunité pour moi. Ils vont faire, ouais, mais on sont 1200 à avoir le
c'est
même
grave.
Dossier.
Exact.
C'est plate, mais à la base, aujourd'hui, quand tu réserves, si tu prends pas le forfait flex, là, où tu peux déplacer tes dates à annuler les compagnies, si tu prends la chance de ne pas être assuré en réservant tes billets, t'es dans marre.
Ouais, c'est
là.
Ça.
Fait que c'est plate à dire, mais j'ai l'impression que n'importe quelle excuse n'amènera pas une compagnie.
Mais il y a pas
à,
des.
À
ben, tu sais, il y a des règlements de compagnie aérienne, puis des. Tu sais, je veux dire, la. Il y a quelque chose qui est forcé par le gouvernement, qu'ils ouais. doivent répondre
parce qu'habituellement,
aux citoyens. Mais...
habituellement, ils ont le gros bout du bâton.
Mais c'est... ouais, ouais, mais là.
Tu sais, genre, oui, monsieur Marino, on peut vous accommoder pour 5 000 de plus par personne. Okay. Là, vous allez être en mesure de partir.
Non,
là.
C'est ça.
Donc, on va surveiller la situation de près. Puis, si jamais vous la vivez présentement, cette situation-là, comment ça marche avec votre agence de voyage, puis comment ça marche au niveau de votre relocalisation, 418-971-1021. On s'arrête pas longtemps, on revient.
Pour joindre l'équipe.